Bienvenue dans Sologamy, dans un crossover avec le podcast Single Jungle. Donc Sologamy, c'est le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne, tu le sais. Et Single Jungle, c'est le podcast de référence des célibataires lancé en janvier 2020 par Louisa Amara. Salut Louisa.
Salut Marie.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Oui. Dans cet épisode crossover, on fête Noël avec un bingo des célibataires. Alors, quelles sont les petites phrases que nous adressent nos proches et moins proches quand on leur annonce ou quand on leur parle de notre célibat ? Tu es trop exigeante, tu es trop grosse, tu fais peur aux hommes, tu es musulmane, etc. Bref, si tu es célibataire toi-même, tu vois à quoi je fais référence et qu'est-ce qu'on leur répond ? Bref, on va discuter de tout ça. Mais d'abord, on se présente comme d'habitude. Je m'appelle toujours Marie-Albert, j'ai toujours 26 ans et j'habite toujours à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Et je me définis toujours comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Louisa, est-ce que tu te présentes et tu te définis et comment à nos auditeuristes ?
Alors, je me présente comme une femme de 40 ans, ronde, racisée d'origine algérienne, musulmane, pratiquante, et je suis, c'était quoi, dépressive ? Non, non, mais je suis…
Tu n'es pas obligée de tout répéter ce que j'ai dit.
Non, par contre, je vois une psy et je vous recommande de voir une psy ou un psy. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde de se poser ces questions-là. Et pour le reste, c'est déjà pas mal, je pense.
D'accord, merci. Donc, c'est parti pour le bingo des célibataires dans cet épisode de Noël exceptionnel.
Alors, est-ce que tu veux commencer ?
En fait, j'avais commencé sur Instagram et ce que j'avais remarqué, c'est que on m'a souvent… Enfin, en fait, c'est surtout mes parents, tu vois, qui m'ont dit des phrases parce que… Mes amis, je pense qu'elles sont pas trop comme ça. Donc voilà, je vais commencer. Alors, il y a la phrase « tu es trop exigeante ». Et du coup, ouais. Et c'est le truc de « tu pourras jamais avoir… » Mettons, on suppose que je suis hétérosexuelle. « Tu pourras jamais avoir un mec parfait, ça n'existe pas ». Ça va aussi avec la phrase « tu es trop féministe ». Mais voilà, j'ai fait toute une liste de phrases. Et je sais pas si tu l'as déjà entendue.
Trop féministe
ou trop exigeante, tu vois.
Ouais, trop exigeante, oui, mais c'était peut-être pas la première qui arrivait. Mais oui, le côté, moi, je préfère être seule que mal accompagnée. On me disait, tu l'as peut-être poussée un petit peu trop loin, cette phrase-là.
Grave. Mais c'est absurde comme phrase parce que ça voudrait dire que si on veut se mettre en couple, il faut renoncer à un certain nombre de choses, de convictions, et il faudrait faire des compromis. Et je trouve ça, ça me gêne toujours cette histoire.
Ah bah complètement. Après, c'est vrai que on est habitué aussi souvent, je parle plutôt donc des femmes et femmes hétéros, à accepter plein de choses, des choses qui ne sont pas normales. On ne va pas refaire l'histoire du patriarcat, mais c'est vraiment ce côté, ok, il est pas super cool avec moi, voire il peut être agressif, voire il est toujours en train de me rabaisser. C'est toujours mieux que d'être seul. Ou il a quand même quelques petites choses sympas, et je sens que avec un travail sur soi ou avec mon aide, il va pouvoir évoluer. Là, tu te dis oula, madame, là tu t'engages dans quelque chose. Le syndrome un peu de l'infirmière. On mettra quelques références là-dessus, mais ou de l'infirmier, ça existe aussi. Donc oui, c'est vrai que ce côté exigence, c'est un des premiers trucs. Mais moi, peut-être la première chose qu'on me dit, qui expliquerait selon les gens, donc les parents, mais pas seulement, ça peut être aussi des amis bien intentionnés, mais qui font du mal sans s'en rendre compte, ils vont me dire « Est-ce que tu as envisagé le fait que tu étais célibataire parce que tu es trop grosse ?» Et alors, c'est marrant, ce « trop grosse », trop grosse par rapport à quoi ? Par rapport à quelle norme ? Et est-ce qu'une perte de poids pourrait faciliter les choses ? Il y a vraiment des gens qui disent si ça se trouve, il n'y a pas beaucoup d'hommes finalement qui aiment les femmes rondes, ou alors ils sont déjà pris. Est-ce que tu as envisagé de perdre du poids ? Et moi, je retourne en général cet argument en disant oui, donc tu peux me confirmer que toutes les femmes minces, elles ont trouvé chaussures à leurs pieds. Il n'y a aucune femme célibataire qui soit mince, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Ah bah non, bon bah alors ça marche pas en fait ton syllogisme, si c'était si efficace. Et puis en plus, bah, pour revenir à ce que tu disais, faire un compromis, donc faire bah, faire un régime exprès, non pas pour se plaire à soi, ce qui devrait être la priorité, ouais, encore, mais pour éventuellement, on n'est même pas sûr, plaire à quelqu'un. Je pense que c'est la pire raison de faire des changements sur son corps, c'est que ce soit pour quelqu'un d'autre que pour soi-même.
Mais tu l'as, c'est qui te dit ça? Tu es trop grosse, parce que c'est hyper violent, hyper grossophobe. Tu l'entends encore aujourd'hui?
Ah bah carrément. Enfin moi je l'entends surtout de ma famille, même s'ils se sont calmés, parce que ma mère a un problème de elle-même de poids. Enfin c'est un truc assez d'accord, classique de mère en fille. Ça aussi c'est très 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 étudié. On nous pousse à être plus mince parce que bah, la maman elle-même a été poussée par la grand-mère et ainsi de suite. Et donc elle a vraiment intégré tous ces codes-là de grossophobie intériorisée. Et donc pour elle, la seule manière d'expliquer le fait que je suis encore célibataire à 40 ans, ou l'une des seules manières, c'est bah, si elle était plus mince, sans doute qu'elle trouverait chaussure à son pied. Et qu'est-ce que je peux faire moi en tant que maman pour peut-être la pousser à se réveiller, à prendre conscience. Et je me dis, mais non, en fait, donc c'est surtout familial. Et au niveau amical, non, parce que mes amis voilà, n'ont pas de soucis là-dessus. En revanche, sur les applications de rencontre, grave, j'ai eu beaucoup, j'avais gardé des captures d'écran que j'avais relayées sur les réseaux sociaux et partagées aussi à des journalistes pour que, si elles le souhaitent, elles les utilisent. Parfois, il y a des gens qui viennent nous parler, qui vont matcher avec nous, alors que on leur plaît pas, juste pour le plaisir de venir nous agresser. Voilà, en nous envoyant un message pour dire mais en fait, t'es trop grosse, t'as l'air sympa, hein, mais t'es trop grosse, juste il faut que tu perdes du poids, sinon t'arriveras pas à rencontrer des gens. C'est un espèce de mansplaining. Tu dis, mais tu viens pour me parler juste pour me dire ça, en fait.
Ouais, c'est hyper paternaliste, en fait.
Oui, c'est une perte de temps. Après, ce qui est dommage, je trouve, c'est que autant moi, j'ai assez confiance en moi et j'ai travaillé sur ça, sur cette acceptation de ce que je suis, de mon corps, etc. Autant j'imagine juste un instant ce que ressent une femme qui peut avoir des complexes, ou un homme, hein, parce qu'il y a de la grossophobie aussi du côté des hommes, et qui reçoit un message comme ça sur une application de rencontre où il vient de s'inscrire, où il découvre un peu, où il est encore peut-être un peu fragile, mais c'est d'une violence. Non, en fait, moi, je voulais juste discuter, en fait. Bah, voilà. Donc oui, ça arrive aussi par de parfaits inconnus. Ouais, ouais.
Ouais, bah du coup, comme je suis mince, je n'ai pas eu cette phrase, mais enfin, je trouve ça atroce. Moi, j'ai eu la phrase. En fait, il y a plusieurs phrases qui vont ensemble. Donc j'ai la phrase aussi, tu fais peur au mec. Qui va avec le reste, tu vois, tu es trop exigeante, mais on pourrait y aller avec tu es trop grosse, tu es trop féministe, tu es trop bizarre, en fait, c'est tu es trop ceci, tu es trop cela. Et en tant que femme hétérosexuelle, il faudrait être gentille, ne pas se mettre en avant, discrète, jolie, mais pas trop, etc. Avoir confiance en soi, mais pas trop, et c'est encore une fois un truc que ma mère m'a souvent dit, mais en fait, comme tu le dis, c'est qu'aujourd'hui, je suis déconstruite, donc je peux prendre du recul par rapport à ces phrases et me dire voilà, c'est sexiste, machin. Mais quand je l'ai entendu la première fois, j'avais peut-être 15 ans et à cet âge-là, je n'ai pas le recul et du coup, j'ai toujours cru qu'effectivement, j'étais trop exigeante et je faisais peur aux mecs juste parce que je parle fort, que je prends de la place, que je suis féministe et en fait, c'est... Enfin, j'étais même pas féministe au début et du coup, je me culpabilisais tout le temps à me dire oui, il faut que je prenne moins de place parce que les mecs, eux, ils ont besoin de prendre plus de place que la femme. Enfin, tu vois, je le disais pas comme ça consciemment, mais c'est un peu ce que j'ai pensé. Enfin, je l'ai jamais fait, mais c'est... T'as déjà eu ce truc-là, tu fais peur aux mecs?
Oui, alors moi, j'ai jamais compris le côté il faut pas faire peur aux mecs et on peut leur faire peur. Je comprenais même pas le concept de comment ça, on leur fait peur. Ben, en fait, les hommes, ils aimeraient plutôt ça, d'après, je sais pas quoi, d'après une culture populaire, d'après les livres, les films qu'on nous montre. Regarde, ça, on m'a dit plutôt, tu ne minaudes pas assez. Et moi, je comprenais pas le terme. J'ai commencé à minauder. Donc, j'ai été chercher. Alors, minauder, c'est faire des mines, donc faire des poses, avoir des attitudes, avoir un visage qui soit calme, tempéré, souriant. C'est pareil, cette injonction qui est faite aux femmes de sourire, même quand elles n'ont pas envie de sourire. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit. On m'a dit, mais t'as un super sourire sur les photos et quand t'es dans la conversation, en premier date, je trouve que tu souris pas assez. mais peut-être que tu m'as pas donné envie de sourire, monsieur. À un moment donné, je comprends pas. Il faut pas leur faire peur. Il faut vraiment être dans un... Ouais, comme tu disais, des injonctions de... être douce, voilà, injection à la douceur. Et on m'a dit, t'es pas assez douce, ça ouais. Mais la douceur, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude, c'est ne pas parler trop fort, ne pas parler tout court, laisser l'autre. J'ai essayé ça juste pour voir, laisser la personne parler et voir s'il allait juste une fois me dire, et toi? Et il s'est passé 45 minutes de monologue. C'est fascinant quand même, même presque sociologiquement, tu dis, mais et même psychologiquement, comment tu fais, monsieur, pour parler 45 minutes seul? Tu t'écoutes parler à aucun moment, enfin, c'est un rendez-vous, tu te dis pas, tiens, bah, je vais essayer de savoir ce qu'elle en pense, elle, de ce que je viens de dire, par exemple. Donc, non, je pense qu'il faut qu'on prenne la parole et c'est souvent pour nous, ouais, nous réduire au silence, quoi, ce côté, on fait peur. Bah, à la limite, ce que je dis souvent aux auditrices qui me posent la question, et à mes amis, mais si tu fais peur à certains hommes, s'ils ont peur de toi, de ce que tu dégages par rapport à ta personnalité, ce que tu es, c'est que c'est pas les bons, hein. Parce que ils devraient pas avoir peur d'une femme qui s'exprime. C'est pas normal d'avoir peur.
Ouais, c'est peut-être. Enfin, moi, je dirais même c'est positif qu'ils aient peur de toi. Ça veut dire que tu agis, que tu as un rôle, que tu fais trembler le patriarcat, tu vois.
Ouais, voilà, on peut aller jusque-là. C'est vrai que là, si on est dans le côté militant, qu'on est peut-être naturellement ou pas, mais j'ai vu des filles très bien intentionnées me dire, Louisa, vraiment, pour les premiers rendez-vous, tout ce qui est sujet politique, féministe, même d'éducation, tu vois, évite. Parle de sujets légers. Qu'est-ce que c'est un sujet léger? Ah bah tu parles de, je sais pas moi, le dernier film que t'as vu. Ouais, mais si c'est un film militant, ouais non, bah parle plutôt de comédie où il y a aucun truc féministe dedans et enfin de choses très légères. Comme ça va le rassurer. C'est hallucinant. Il y a des filles et peut-être des hommes aussi qui se prévoient une liste de sujets acceptables pour un premier rendez-vous.
Ouais, mais c'est absurde parce que ça fait un peu cheval de Troie, genre je vais changer le système de l'intérieur, je vais venir féministe, mettons si je suis féministe, je vais venir cacher mon féminisme pour que ce mec peut-être tombe amoureux de moi et qu'ensuite, au bout de 45 rendez-vous, je lui révèle qu'en fait je suis une féministe. Mais comme il sera déjà amoureux de moi, bah ça lui fera plus peur et on pourra vivre notre relation. Mais ça ne se passe jamais comme ça en fait, enfin...
Non, par contre, l'inverse est vrai. Il y a eu plusieurs femmes qui ont témoigné de ça, que l'homme avait été vraiment adorable au tout début de la relation et qu'ensuite, il s'est révélé beaucoup plus désagréable et qu'en posant la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes comme ça? Ah non, mais en fait, moi, c'était juste pour te séduire, que j'ai été comme ça, j'ai suivi des conseils de coach en séduction et donc, il faut agir comme ça. Faut être sympa, faut être cool, faut être prévenant. Et ensuite, une fois qu'on a ce qu'on veut, bah après, on peut montrer et révéler ce qu'on est vraiment. Mais en fait, c'est de la manipulation ce que tu as fait. Donc, c'est pas très très bien. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là d'être pas soi-même et juste pour séduire la personne dans un objectif. Et après, tu lui montres vraiment qui tu es. Non, mais non, en fait, soyez vous-même dès le début et ça fera le tri, tout simplement.
Bah, c'est de la violence. Après, il y a toutes ces phrases d'accusation, tu es trop ceci, tu es trop cela. Et après, il y a l'apitoiement, genre, ma pauvre. Genre, comment tu fais, mais c'est horrible, mais tu es tellement... Au contraire, tu vois, tu es tellement jolie, tu es tellement jeune, tu es tellement intelligente, je comprends pas que tu trouves pas... tu dois vraiment souffrir, ma pauvre. T'as déjà eu ça ou pas?
Oui, je l'ai eu. Et ce ma pauvre, il est beaucoup plus... comment dire? Il est de plus en plus important et ils insistent beaucoup plus à mesure que les années passent. Tu sais, si tu as un an, deux ans de célibat, on dit « Ah là là, ça doit être dur, machin. » Et quand tu annonces un chiffre qui est au-delà des 3 ans, donc moi, ça va faire 5 ans, ça ne veut pas dire… tu vois, je me sens obligée de justifier. Ça ne veut pas dire que j'ai eu aucune relation entre pendant les 5 ans. Et j'aurais pu tout à fait, et ça aurait été aussi cool de dire « Voilà, pendant 5 ans, j'ai été dans une concentration sur moi-même, j'étais sur un travail sur moi-même, et voilà, et point. » Mais c'est marrant comme on ne va pas se poser ces questions-là. Un mec qui décide d'être célibataire ou qui l'est de fait pendant plusieurs années, on s'en fout. Mais moi, là, ça fait 5 ans et je me sens obligée, et pourtant, j'ai essayé d'être déconstruite, je me sens obligée de justifier que j'ai eu des relations pendant ces 5 ans, que je n'ai pas été dans l'abstinence, ce qui aurait été un choix compréhensible. Et donc, oui, maintenant que ça fait 5 ans, ouais, ma pauvre, c'est « Oh là là, genre, qu'est-ce que tu vas devenir ?» Puis en plus, tu as 40 ans. Oh là, les gens, au lieu de l'apitoiement, ils sont inquiets. Presque, ça confine à l'angoisse. Hein. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Est-ce que tu vas pas devenir la fille dépressive de notre entourage, en fait, hein, qu'on n'osera plus inviter, hein, parce que, non, et puis, ça fait pas bien, peut-être, en soirée entre amis, d'avoir une femme féministe de 40 ans, célibataire depuis 5 ans, oulala. Puis elle a même pas d'enfants, en plus, hein. Parce que voilà, ça passe mieux. Tu vois, si j'avais des enfants, il y a le côté, bon, bah, elle se concentre sur ses enfants. Mmh. C'est honorable. Et là, non, en plus, ah non, pas d'enfants, ouais. Donc, il y a aussi cette injonction à la maternité. Donc, oui, ma pauvre, ouais, j'ai eu. Et après, ça creuse, ça cherche. C'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es traumatisée de ta grande relation qui aurait fait que? Est-ce que tu vises trop haut? C'est quoi viser trop haut? Peut-être que tu es attirée par un certain type d'hommes qui sont peut-être trop beaux pour toi. C'est quoi trop beau? Il y a une espèce d'échelle de valeur de chacun dans son couloir, quoi. En gros, bah, on va être clair, les moches avec les moches. Et puis en plus, si t'es grosse, bah, je sais même pas si on te met dans une case grosse et moche où il y a plusieurs, où ça se croise, il y a une intersection. Je dis, mais non, mais arrêtez de chercher pour moi. Moi, ça va, en fait. Hein. Et là, ça découle l'incompréhension. Comment ça, ça va? Ça n'est pas normal, ça rentre pas dans leur logiciel. Comment tu peux être célibataire et heureuse de l'être et OK dans ta vie et pas être en pleine dépression? Ça interroge.
Ouais, bah du coup, moi j'ai 26 ans, du coup j'en suis encore à la phrase « ça va, tu as le temps de trouver, tu es encore jeune ». Et tu vois, ça fait genre à peine 2 ans que je suis célibataire et du coup… Pour les gens, c'est même pas une question. Enfin, on va pas. Enfin, mes amis, mes proches vont pas, à part mes parents, mais vont pas s'inquiéter parce que ils pensent très fort. Ça va, tu as le temps de trouver. Tu es encore jeune, mais j'imagine bien que les années vont passer et que ça va être l'enfer, surtout après l'horloge biologique et tout.
Ouais, c'est ça. Et en plus, peut-être que le fait que tu sois dans une grande ville, ça aide un peu plus. Parce que j'ai eu des témoignages de filles qui me disaient que 26 ans. Dans certaines régions de France notamment, et peut-être aussi dans d'autres pays, 26 ans célibataire, pas d'enfant, pas marié ni rien, elle suscite déjà quelques questions. Je me dis, mais t'as 26 ans et on t'emmerde déjà. Ah ouais, d'accord. Ça commence tôt, en fait, dans certains endroits, certains... Est-ce que c'est pas forcément culturel, c'est lié aussi à une éducation et à l'entourage. C'est vrai que si tout le monde a pour objectif d'être marié avec un premier enfant en route à 25 ans, toi à 26 célibataire, ouais, les questions peuvent arriver.
Bah, là encore, j'ai déménagé dans une petite ville à Alençon avec ma sœur, mais c'est vrai qu'on est un peu les Parisiennes débarquées, du coup les gens vont pas tout de suite... me critiquer sur mes mœurs, mais c'est vrai que si dans 10 ans je vis encore avec ma sœur, ça va commencer à être bizarre.
Ah ouais, là, les gens vont se poser des questions peut-être, alors que bon, il n'y a pas de raison, ça peut être un choix de vie.
Et puis la dernière phrase que j'avais marquée, c'est « mais tu te sens pas trop seule ?» Et je crois que celle-là, c'est la pire parce que c'est ce que je me dis tout le temps, tu vois. Enfin, en gros, moi, ça fait que 2 ans que je suis célibataire, donc j'en suis encore au stade. J'ai abandonné, enfin, après, on a chacune nos stades, tu vois, il n'y a pas de règle, mais moi, j'ai abandonné le stade rencontrer quelqu'un, avoir des applis. Mais j'en suis encore au stade de rêver, d'affection, de tendresse. Bon, ça, je pense, je passerai jamais. C'est juste normal. Mais du coup, je me dis, mais c'est trop bizarre que j'aime la solitude, mais à un moment donné, je vais me sentir trop seule, mais des fois, je me sens seule, mais. Alors, tu vois, dans ma journée, ça doit être genre 2 minutes avant de m'endormir. Mais c'est vrai qu'il y a ce regard de la société qui fait que bah c'est tout de suite louche, quoi.
Bah après, peut-être qu'il y a aussi cette image de la femme seule. Alors moi, ça me fait beaucoup rire. Je pense que j'essaierai d'insérer un extrait du sketch La solitude de Muriel Robin, qui est un sketch culte où elle prend toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur une femme célibataire, et puis en plus dans les années fin 80, 90, donc le côté toute seule avec son petit plateau télé, et puis même pas très très entourée au niveau familial, au niveau professionnel, et donc être seule. Elle essaye de montrer un peu les avantages de la solitude et aussi quelques inconvénients, et on sent que ouais, l'avantage d'être seule, oui, mais aussi qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi. C'est un petit peu ce qu'elle dit. Mais je pense qu'elle prend l'exemple aussi d'une expo. Tu vas voir une expo, bah, le tableau, tu le trouves beau, il est beau. Le fait de le voir seul ou de le voir à deux ou plusieurs ne changera pas la qualité de ce tableau. Donc, je pense qu'il y a aussi ce sujet de... On nous a trop montré qu'être seul, c'est être malheureux. C'est être pas bien, c'est il nous manque quelque chose, on n'est pas complet quand on est seul, alors qu'en fait quand on découvre et qu'on prend ce temps là pour soi de dire bah attends, moi la première fois que j'ai pu me dire en rentrant du boulot peu après la rupture avec mon ex avec lequel je suis restée 13 ans, je me suis dit mais il y a personne qui m'attend à la maison là, et après j'ai tourné la phrase en disant mais il y a personne qui m'attend à la maison. Mais c'est super. Si je veux, je rentre pas tout de suite. Si je veux, je peux mettre 1h30 à rentrer chez moi parce que j'ai envie de traverser Paris. J'ai jamais pris le temps de faire ça, par exemple. Et ou si je veux, tiens, je vais me faire un film. Et là, alors pareil, les gens tournent le truc. Ah ouais, tu te sens obligé d'aller au cinéma, hein, parce que ça te prend 2 heures comme ça, 2 heures où tu penses à rien, où tu penses pas au fait que t'es seul. Je me dis non, mais je peux aussi aller voir un film parce que j'ai envie d'aller voir un film et que j'ai pas envie forcément d'attendre que mes amis soient disponibles. Et ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à comprendre qu'on puisse faire des loisirs seuls et les apprécier tout autant que si on les partageait. Bah, pour moi, ça fait partie de l'apprentissage du célibat et c'est fait partie des joies du célibat, c'est de maîtriser son temps, sa liberté. Et non, tu te sens pas trop seul. Ah non, au contraire, hein, c'est un kiff, hein, sur plein de points. Et finalement, on n'est pas si seul que ça. Les journées passent vite, on est très occupé à faire plein de choses. Pour peu qu'on ait une famille un peu présente, des amis, puis des activités, des passions, les journées passent vite. Et moi, ça m'est pas arrivé de me dire. Oh, je suis toute seule à la maison, là. Oh, là. Je manque un peu de quelque chose. Sauf si, bien sûr, comme tu disais, on peut avoir besoin d'affection. Là, après, il y a des solutions, mais c'est un autre sujet.
Ouais, c'est un autre sujet. Mais après, sur la solitude, moi, c'est vrai que je comprends pas. Là, tout à l'heure, j'étais avec des potes et elles me proposent d'aller randonner ensemble ou d'aller faire un jogging ensemble la semaine prochaine. Et moi, je suis en mode... J'adore courir, j'adore randonner et je vais y aller. Mais en fait, moi, j'adore randonner seule. J'ai besoin d'être seule dans la nature pour apprécier. J'ai besoin d'être seule au cinéma pour apprécier. Enfin, moi, c'est l'inverse, tu vois. J'ai besoin de... Pour apprécier les choses, je trouve qu'on les apprécie jamais mieux que seule. Mais la plupart de la population est totalement en désaccord avec moi. Est-ce que t'as d'autres phrases ou pas?
Oui, alors là, c'est plus sur... lié à ma... Parce que je suis, donc, outre le fait que je suis une femme de 40 ans et je suis une femme grosse ou ronde, tout dépend du mot qu'on veut utiliser, je suis aussi une femme qui a 2 autres caractéristiques. Je suis une femme racisée, donc d'origine algérienne, et musulmane. Et je précise que l'un ne va pas forcément avec l'autre. Et donc, il m'est arrivé qu'on me dise, non pas t'es trop arabe, parce que ça, j'y peux rien, hein, je peux pas l'enlever, mais qu'on me dise... Bon, le fait que tu sois arabe, même si, comme si ça enlevait quelque chose, tu es quand même plus clair de peau. J'ai horreur de ça parce qu'il y a vraiment ce côté, ça se voit pas trop. c'est quoi, ça se voit trop en fait. Donc, bref, on ne repère pas forcément que je suis arabe, sauf ceux qui le sont. Si on a une espèce de truc comme les Highlanders, tu vois, on se reconnaît entre nous, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il est arrivé qu'on me dise attention, on est en France, dans un pays où il y a une mixité, mais il y a des hommes, vu que malheureusement je ne suis attirée que par les hommes pour l'instant, qui ne sont pas attirés par les femmes de type racisé, et en particulier les Arabes, ils ne sont pas attirés. Donc du coup, peut-être que tu perds une partie des gens. Ah bah ça, j'y peux rien, hein, je ne vais pas les forcer. Donc c'est arrivé qu'on me le dise, et qu'on me dise aussi, bah, en plus, bah, tu es musulmane pratiquante, donc je pratique certaines petites choses basiques. Pour entrer dans le détail, en l'occurrence, je fais le ramadan et je mange pas de porc. C'est pas non plus la prière 5 fois par jour et autres, ce qui serait tout à fait acceptable, hein, mais c'est vrai que ça va jouer dans la rencontre. Il est arrivé, même sur une appli, alors ça m'a choqué, que le type me dise « Mais du coup, le ramadan, de ton côté… parce que j'ai cru comprendre que ça allait arriver bientôt. » Oui. Ben, moi, ça me convient pas du tout, en fait. C'est-à-dire, le concept du ramadan, parce qu'il y a des milliards de gens qui le font, hein. Non, mais ça me convient pas de sortir avec quelqu'un qui le pratique. Parce que si je comprends bien, ça veut dire qu'en journée, avant que le soleil se couche, tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit d'embrasser, tu n'as pas le droit de baiser. Enfin, tu fais rien. Oui, c'est du lever au coucher du soleil, en effet. Et ben, ça me convient pas que pendant un mois, admettons que j'ai envie qu'on fasse des trucs, ben, je pourrais pas avec toi pendant un mois. Oui. Alors, t'es bien conscient qu'on discute de tout ça alors qu'on n'a pas encore eu de premier rendez-vous. Hein. Je trouve ça très intéressant que tu focalises là-dessus, parce que peut-être que effectivement, il faudrait que tu te concentres plutôt sur des femmes qui correspondent à ce que tu recherches. Et donc, s'il y a une pratique religieuse qui te pose problème dans ta sexualité, hein, visiblement, c'est important, on va s'arrêter là, quoi. Je me suis dit, mais enfin, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire à quelqu'un il y a des aspects de ta religion qui ne vont pas me convenir, hein, sur une certaine période. Bah, ouais, mais non, en fait. Donc, ça m'a un peu choqué qu'on. Ou au contraire aussi que des gens qui se disent très ouverts, très dans la discussion, le partage, qui sont dans. Ouais, mais comment une fille féministe comme toi, comment tu peux cautionner l'islam? Ouh là là. Ouh là là. Non, mais non. Non, mais on va pas rentrer dans ce débat-là. Parce que du coup, ils vont vouloir me faire lire toutes les sourates du Coran où, par exemple, je ne serais pas d'accord, mais c'est problématique, ça. Moi, je me permettrais pas de faire ça pour la Bible ou pour la Torah ou pour quelque religion ou croyance que ce soit. On ne devrait pas avoir à être à justifier, voilà, à justifier de qui on est, de ce qu'on pense et de notre, je sais pas, de notre théologie, entre guillemets, enfin. Moi, je comprends pas que sur une application de rencontre, on en soit là. C'est pas possible. Dans la vraie vie, heureusement, c'est arrivé qu'une fois qu'un type me pose plein de questions sur la religion et sur mon rapport à la religion. Et j'ai dit stop parce que j'estime qu'on n'a pas à se justifier, on n'a pas à s'expliquer. C'est quelque chose de très intime qui est souvent lié à une éducation, qui est lié aussi à des choix. Et je ne veux pas que mon célibat qu'on le rapporte forcément à ça. Pour moi, les deux ne sont pas liés. Donc oui, dans le bingo, j'ai eu ouais, mais le fait que tu sois arabe et musulmane, ouais, peut-être que c'est problématique. Hein. Tu cherches un peu, hein, quand même. Hein. Voilà.
Ouais, c'est. À chaque fois, je suis ébahie par les récits de dates des gens. Je sais pas combien de dates t'as fait, mais moi.
Oula, j'ai arrêté de compter, moi. Je pense que en 5 ans, ça se compte sans doute en plusieurs centaines, peut-être. Ouais. Et après, mais c'était une phase où vraiment je rencontrais beaucoup. Et après, j'ai calmé le jeu parce que c'était une perte de temps. Et toi, t'as l'impression d'avoir fait beaucoup?
Non, en fait, moi, j'en fais pas beaucoup. Et du coup, ça me fait peur parce que je me dis si j'en faisais plus, ce serait encore pire. C'est-à-dire que moi, quand je fais un date, faut vraiment que je sois sûre que je suis déjà amoureuse, que ça va être le bon. Enfin, le bon, tu vois, je suis tellement dans la dépendance affective que je suis déjà à fond. Donc, j'en fais pas beaucoup parce que sinon, je ne tiendrai pas le rythme. Et du coup, le date, je fais en sorte que ça se passe bien, tu vois. Genre, j'oublie les phrases qui me plaisent pas dans ce que dit le mec. J'arrondis les angles. Je fais tout pour qu'on finisse par coucher ensemble. Et du coup, j'ai eu des dates gênants où il se passe rien à la fin. Mais dans trois quarts des cas, on baise et du coup, j'ai un peu transformé le date en truc merveilleux, quoi.
Ah bah justement, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que c'est dans mon bingo. On m'a dit, tu es célibataire, peut-être, parce que tu couches trop vite. Et tu laisses pas le temps à la personne de te séduire, tout ça.
La fameuse phrase.
Il faut attendre le troisième date pour coucher. C'est quoi, c'est ça les règles ?
Ah ouais, enfin troisième, après ça dépend, il y en a qui vont jusqu'à 5, 10, et que c'est comme une espèce de concours et que soi-disant ça va permettre à la relation de se construire et l'homme dans son instinct de chasseur se sentira voilà, flatté, il sera dans son parcours habituel et que il y a ce côté valeur qui est associé à ça. Tu as perdu ta valeur de quoi de femme respectable parce que tu as couché trop vite d'après ces gens-là. Ouais, ça arrive souvent qu'on me le dise et je réponds en général que ça m'est arrivé d'attendre, de faire comme on m'a dit. Je l'ai toujours regretté parce que j'ai attendu plusieurs rendez-vous et au final quand on a couché, c'était vraiment pas bien. Le mec était très égoïste et la relation s'est arrêtée d'elle-même juste après avoir couché parce qu'il avait eu ce qu'il voulait et que bon voilà il trouve toujours des excuses et je me suis dit mais t'as perdu combien de semaines de ta vie là avec lui parce que si t'avais couché vite comme tu le voulais t'aurais vite vu qu'il était nul égoïste que finalement il cherchait que ça et tu serais passé à autre chose et donc t'aurais économisé entre guillemets autant de temps et d'énergie.
Ouais, mais en fait, ça me fait trop penser à la phrase, j'ai dit tout à l'heure, tu fais peur aux hommes, mais aussi tu fais fuir les hommes, qui est aussi le truc que j'entends beaucoup, c'est qu'en fait, il faudrait adopter un comportement, se faire désirer, et donc pas trop en montrer. Et donc moi, comme je suis toujours dans l'exubérance, à dire je t'aime au premier rendez-vous, à coucher ensemble, à en faire des tonnes, à écrire plein de messages et tout, ben, ce serait moi qui ferais fuir les mecs. Alors qu'en fait, enfin, c'est eux aussi qui fuient exprès parce qu'ils ont la phobie de l'engagement, blablabla. Et donc, il faudrait que j'adopte des stratégies que mes potes m'ont vraiment enseignées, tu vois. Genre, si tu réponds pas à ton SMS, il faut pas en renvoyer un nouveau. Il faut attendre 3 jours après le rendez-vous pour lui redemander de se voir. Enfin, tu vois, il y a des espèces de règles que j'ai essayé d'appliquer. Mais en fait, c'est absurde parce que ça voudrait dire... que je dois faire semblant d'être quelqu'un d'autre et ensuite que ça va marcher alors que ça ne marche pas comme tu dis ça va marcher un temps et puis en fait dès que le mec il a eu ce qu'il voulait et il sent qu'il est en train de se faire piéger bah il se casse tu vois et donc c'est vraiment hyper patriarcal et moi je me suis toujours culpabilisée en me disant c'est moi qui fais fuir les mecs parce que je suis trop dépendante affective et c'est vrai je suis dépendante affective je dis pas qu'il faut dire je t'aime au premier rendez-vous c'est pas du tout sain mais on est deux dans la relation tu vois et c'est facile de dire que c'est toujours de ma faute.
On fait porter aux femmes la responsabilité de la réussite ou de l'échec d'une relation. Mmh. C'est toujours nous et ça c'est pas normal, on devrait pas investir autant ou alors on devrait chacun investir. Il y avait un super épisode là-dessus des couilles sur la table, j'essaierai de retrouver la référence. Donc c'est vrai que ce sujet de la sexualité, on y va, on n'y va pas, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, moi j'ai aussi autant d'exemples positifs de gens qui ont baisé rapidement parce qu'ils voilà ils se plaisaient et ça donnait quelque chose de beau, de durable. C'est pas du tout automatique, il y a encore des gens adultes qui assument leur désir et c'est pas pour autant que ça deviendra pas une belle histoire. Voilà, c'est pas automatique quoi.
Grave.
Alors quelles autres choses on avait dans le bingo? Alors je sais pas si toi t'as eu ça parce que tu es une jeune femme élégante, etc. Mais moi, on m'a déjà dit, tu devrais peut-être faire un petit effort vestimentaire quand même, parce que tu en es capable. Hein. Des fois, tu te sapes un peu pour des événements, pour le boulot. Ouais, peut-être qu'il faudrait que tu fasses un petit effort supplémentaire au niveau vestimentaire. Ça, on me l'a déjà dit.
Non, mais moi, je sais pas pourquoi tu as dit que j'étais élégante.
Parce que c'est l'image que j'ai de toi.
Ouais, bah trop bien, hein, tant mieux. Enfin, je sais pas si c'est positif, mais en tout cas, moi j'ai une vestibulodynie, donc j'ai une inflammation de la vulve depuis 3 ans, donc je peux pas mettre de jeans, de trucs serrés. Donc je m'habille en jogging, en legging, en trucs, tu vois, sportswear depuis 3 ans et même avant, parce que de toute façon je déteste les vêtements, donc je dois porter que du coton, que des trucs confortables. Et peut-être que tu vois, t'as l'image d'une meuf élégante parce que je suis jeune, je suis blanche, je suis mince, etc. Mais du coup, ouais, on me l'a déjà dit, ouais. Pff. Ouais, ça me passe complètement au-dessus, mais c'est vrai que...
Bah là, pareil, c'est encore une fois une injonction. J'ai jamais entendu de mec me dire « Ouais, je me sape pas assez bien, c'est peut-être pour ça que je rencontre pas de filles. » Non, ils peuvent s'habiller comme des sacs, ça ne pose aucun problème. Sauf, c'est arrivé qu'une fois, parce que c'était une fille qui bossait dans la mode. Et pour elle, c'était super important que le mec soit aussi apprêté qu'elle, entre guillemets, et elle faisait très attention à ça. Ok. Mais à part cette exception-là, on peut trouver des hommes bien habillés, bien sapés, mais c'est pas pour autant qu'on va estimer que ça va être une chose indispensable, un critère indispensable. Le seul truc indispensable, mais là c'est le patriarcat et je trouve ça dommage. Donc il y a quelques filles qui commencent à se déconstruire, mais c'est très long. C'est la taille. Il y a beaucoup de femmes qui, parce que voilà, on leur a appris que le prince charmant, il était grand, alors que elles-mêmes peut-être vont être petites. Oui, mais toi, tu fais 1m56. Pourquoi c'est important pour toi que le mec il fasse 1m80? Je sais pas. D'accord? Tu veux y réfléchir un peu? Parce qu'il y a sans doute des garçons qui te plairaient beaucoup et qui, juste, ils sont plus petits. Ah non, mais je les regarderai même pas. Il y a un travail à faire là.
Ouais, non, ça, c'est pas du tout en cours de déconstruction, ou alors c'est très lent parce que...
Ouais, j'en attends encore beaucoup. Ouais. D'ailleurs, je sais que je m'étais un peu, pas fritée, mais on avait eu un échange un peu funky sur Instagram sous une photo de, je crois que c'était Kyron, donc artiste humoriste, qui est pas très très grand. Je pense qu'il doit faire 1m72, 73 dans ces eaux-là. Et il y avait une fille qui disait « Ah, c'est dommage, t'as tout pour plaire, il te manque juste quelques centimètres en plus. Si tu faisais 1m80, tu serais vraiment magnifique. » Je lui ai dit « Mais c'est horrible d'entendre ça, quoi. Tu te rends compte des injonctions. Et en plus, lui, il est quand même, entre guillemets, dans une norme. Il est mince, il est musclé. Il peut ne pas plaire, c'est pas le sujet, mais c'est plus de dire que pour cette fille-là, ah, c'est dommage, il avait presque tout, sauf c'est pas possible parce qu'il lui manque 5 ou 6 centimètres. C'est horrible. Voilà, on en est encore là. Mais voilà, il faut encore, j'ai répondu, instruis-toi, lis des documents, lis des articles sur la sociologie, sur le féminisme, sur pourquoi tu te sens attirée par un homme grand. Est-ce que c'est quelque chose que tu... C'est pas inné. Tu t'es pas réveillée à 6 ans un jour en disant, ben voilà, mon amoureux, un jour, il sera grand. Non. C'est qu'on te l'a montré et tu n'as vu que ça. C'est pas pour rien que Tom Cruise au cinéma, il est toujours avec des actrices soit plus petites, soit il est lui-même surélevé dans les plans où ils sont à deux, quoi. Parce que il faut pas qu'on voit la différence de taille, alors que dans la vraie vie, on s'en fout, quoi, qu'il soit petit. C'est pas ça qui nous intéresse, quoi.
Mm. Ouais.
Pour le bingo, je pense qu'on a fait pas mal le tour, je crois, sur tout ce qu'on peut nous dire de qu'est-ce qui va pas et pourquoi on... Enfin, ça aussi, pourquoi on est célibataire, ce serait à cause de tout ça.
Ouais, je pense que j'ai dit tout ce qui me vient en tête, mais après, je pense que les auditoristes ont plein d'autres idées.
Ah bah ça, c'est sûr. Chaque personne va avoir peut-être des remarques spécifiques dans sa famille ou dans ses amis. Peut-être la seule chose, c'est que qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens-là ? Bah, on l'a fait pendant... ces premières minutes, mais si on vous agresse avec toutes ces phrases-là qui sont de toute façon qui sont très négatives, il faut avoir les clés pour répondre. Bon, après, il y a des gens, faut arrêter, quoi. Moi, ma mère, j'arrête, ça sert à rien. Elle est en boucle. Donc, il y a des gens, faut pas trop insister. Vous arriverez pas à les faire grandir, entre guillemets. En revanche, il faut réussir à se blinder et avancer, quoi.
Ouais, au début, quand je préparais l'épisode, je me suis dit, oh, on va trouver des phrases pour répondre. Qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là? Mais en fait, là, j'ai même pas envie de répondre à ces gens-là. Je me dis juste, c'est des gens sexistes, grossophobes, racistes. Enfin.
Bah, sur la grossophobie, en tout cas, c'est sûr qu'on peut leur dire, si d'après toi, je suis célibataire parce que je suis grosse, et ben, pourquoi il y a plein de filles minces qui sont célibataires alors?
Ouais, mais c'est. Enfin, en fait, je pense qu'on peut même pas convaincre les gens. Ils sont tellement. Enfin, persuadés qu'ils ont raison. Enfin, ils trouveront toujours un truc à répondre. Enfin, moi, quand j'ai affronté mes parents, ils ont. Enfin. Ils vont dire OK, puis deux mois après, ils vont dire la même phrase, tu vois. Enfin, genre, ça ne rentre pas, j'ai l'impression.
Ouais, ils sont en boucle, c'est ça.
Du coup, je crois qu'on a fait le tour des phrases insupportables qu'on entend en tant que célibataire. Chère auditorice, est-ce que tu as aimé ce bingo? Tu as entendu quelles autres critiques? Si tu es célibataire toi-même, tu leur réponds comment? Écris-nous pour nous le dire. Mon pseudo à moi, c'est toujours MarieAlbertFR sur Facebook, Twitter et Instagram. Alors Louisa, je l'ai dit au début, tu animes le podcast Single Jungle. Est-ce que tu peux nous parler de l'actualité du podcast en ce moment? Tu prépares quels épisodes? T'en es où dans ton projet?
Il y a plusieurs épisodes que j'avais enregistrés au premier confinement et qui n'étaient pas encore sortis, donc j'ai tout cela à sortir, notamment un qui me tient beaucoup à cœur sur une femme qui ne souhaite pas d'enfant, et d'ailleurs c'est le nom de son compte Instagram, je ne veux pas d'enfant, et comme j'arrive à une phase de ma vie où justement je me pose toutes ces questions-là, eh bien je vais le sortir, je vais enfin pouvoir le sortir.
Trop bien. Et t'es contente de ce qui est devenu le podcast? T'as une audience? Comment tu te sens par rapport à ça?
Je suis très contente de l'évolution du podcast. Je pensais pas en arriver là, être déjà à presque 10 épisodes lancés en janvier 2020. Et je suis très étonnée de voir qu'il y a des gens qui écoutent. Moi, je pensais que je serais à 50 ou 100 écoute maximum par épisode, parce que genre le cercle amical, quoi. Et en fait non, donc magie des algorithmes, magie aussi des quelques relais sur les réseaux sociaux et d'un peu de médiatisation, voilà, la télé, merci le 20h de TF1 avant Koh-Lanta, ça a bien marché. Donc bravo. Effectivement, voilà, merci, là ça avance bien. Et pour moi, ma récompense, ça, je voulais faire un petit coucou aux auditeuristes. La première récompense, c'est pas l'argent qu'on ne gagne pas, par le podcast. C'est pas le nombre que vous êtes, c'est les messages que vous nous envoyez. Donc, continuez à le faire. C'est toujours très précieux, vos encouragements et vos partages d'expérience aussi. Donc, merci pour tous vos messages. Continuez.
Bah oui, merci. Et du coup, je vais mettre, si ça te dérange pas, dans la description de cet épisode, tous les liens pour s'abonner à Single Jungle, pour te suivre sur Instagram. Ça te va, Twitter?
Avec plaisir, je ferai de même pour Sologami.
Voilà. Et bien, merci Louisa pour ce crossover exceptionnel et bisous.
Merci.
Voilà, merci Louisa. Auditoriste, si tu as aimé ce bingo, je t'invite à mettre 5 étoiles à nos deux podcasts, Sologami et Single Jungle, sur ton application de podcast. Tu peux aussi le partager avec tes proches comme d'habitude. Merci et au mois prochain, je reviendrai le premier mardi de janvier avec un épisode spécial Ambition. Je recevrai une nouvelle invitée célibataire pour en discuter ici. Si tu veux participer à Sologami, toi, écris-moi, je le répète, n'importe qui peut participer à ce podcast. Il faut juste te définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Merci, joyeux Noël et bonne fête! Just like the water, falling from the sky.